Bonsoir chers amis, très heureux de vous retrouver en direct sur ce plateau extraordinaire. On va parler de politique, on va parler des sujets de la semaine, on va jouer à des jeux débiles, on va avoir l'avis d'Adèle et on va recevoir notre invité politique dans la deuxième partie de l'émission. Il s'agira du président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, ancien secrétaire général adjoint de l'Élysée sous François Hollande, Boris Vallaud. Mais avant ça, on va discuter avec les plus belles et les plus beaux des chroniqueuses et des chroniqueurs. On est avec Antoine. Salut Antoine.
Salut Jean.
Comment tu vas?
Bah écoute, ça va bien, ça fait plaisir d'être là.
Mais ouais, ça fait plaisir de te retrouver. Tes doctorants en sciences politiques, directeur de l'Observatoire de l'opinion de l'Institut Jean-Jean.
Exactement.
Et eh ben ça fait vraiment plaisir de te voir. On est aussi avec Léa. Ça va Léa?
Coucou.
Ça roule?
Ouais.
Léa, tu es journaliste, tu es fondatrice du média Popol.
Tout à fait. Popol qui a besoin de vous. Je vous le dis comme ça, vite fait. Je fais le placement de produit.
Mais fais-le rapidos. Tout de suite. Fais-le rapidos. Popol est en cours de levée de fonds.
Tout à fait, jusqu'à fin octobre. Donc si jamais vous avez 5 balles à claquer, vous pouvez donner 4 balles à Backseat, 1 balle à Popol. Bref.
Ou l'inverse. Vous faites comme vous voulez. Mais
vous voulez. Merci Jean.
Popol est un média féministe.
Tout à fait, un média politique qui propose un regard féministe sur la vie politique.
C'est plus précis que ça. À retrouver sur KissKissBankBank, si je dis pas de conneries.
Tout à fait.
Et sur toutes les plateformes qui vont bien pour retrouver
les podcasts, la newsletter sur Kessel, tout ça. Et bientôt un site internet, si vous le voulez bien.
Grâce au financement participatif. Et bah ça fait plaisir de te voir Léa sur le plateau de Backseat. On est avec Malek aussi.
Salut tout le monde.
Tu vas bien Malek?
Ça va et toi?
Bah écoute, ça roule Malek. Toi t'es conseiller en communication politique, t'es chroniqueur et tu es le fondateur du podcast Autour de moi.
C'est vrai, qui est enfin lancé.
Qui vient de sortir le premier épisode la semaine dernière.
Ouais, et des retours incroyables, la commu de Backseat qui était là.
Ah ouais, ils ont
oui, j'ai reçu des messages, c'était trop cool, merci encore.
Ce podcast représente le nous.
Alors c'est la première discussion, on va demander à nos invités de pas parler d'eux mais de parler de ceux qui sont autour d'eux. Le premier épisode était avec la journaliste Nesrine Slaoui, sorti la semaine dernière. Le deuxième épisode avec Agathe Oprou la semaine prochaine. Et voilà, c'est Agathe Oprou qui était ma collègue à la télévision, chroniqueuse, animatrice à la télévision, qui a sorti un bouquin à la suite de son cancer. Elle va nous expliquer que le mot cancer n'est pas un gros mot,
okay.
Et qu'il faut le dire sans aucune gêne et ça va être archi intéressant.
Donc ça c'est pour le prochain épisode. Et ben merci à vous trois d'être avec nous. Ça vous va si on parle de politique?
Oui, ben on a un peu.
Bah, moi je voulais parler de toi d'abord. Comment vas-tu, Jean?
Mais moi ça
c'était
va.
C'était comment le festival?
Paul and Chill, c'était très très cool. Merci à toute
j'ai
la communauté
ça,
qui est venue. Ouais, t'as loupé ça. Malek était là. Heureusement que Malek était là. On a fait une journée extrêmement chill.
Ouais.
Et extrêmement politique parce que, une succession de tables rondes dans laquelle j'ai encore plus brusqué mes invités d'habitude parce que là, ils étaient dans des putains de transats. Et vraiment, ils hallucinaient
oui,
quand ils sont arrivés.
J'ai vu des images.
Je les foutais dans des transats.
C'est Paul and Chill.
C'est complètement anachronique. Ils étaient en mode what the fuck. Et en même temps, ils sont pliés au jeu, mes invités. On a eu des tables rondes. Fascinante sur l'union de la gauche, sur la droite, sur l'Union européenne, sur les médias, sur les institutions. 5 sujets qui, moi, me passionnent et 5 sujets sur lesquels, j'ai eu des invités passionnants et surtout dans le bar, les gens étaient là avec leurs lunettes de soleil, Paul and Chill. On a bu des coups, on a fait la teuf.
Même Émilien Warvial, qui est un collègue et ami doctorant avec un super polo jaune et noir et même un chapeau de paille. Et ça, quand même, c'était quand même assez.
Émilien Warvial, j'étais super content de l'avoir. Il est absolument passionnant. Il a effectivement, sans que rien, personne lui demande quoi que ce soit, il a pris un chapeau de paille. Il a fait, vas-y, je suis dans le thème, pas les couilles. On avait des députés de droite avec des colliers de fleurs.
Oui.
Mais pareil, je sais pas, c'est clair, la chef de projet
oui,
qui est arrivée avant qu'il rentre sur scène,
vous
voulez prendre. Ils ont fait d'accord. De toute façon, c'était tellement what the fuck. Il y avait tout le monde avec des lunettes de soleil comme ça, tout le monde en train de boire des coups et tout. Ils ont dit, je sais pas où on est, mais du coup, ils ont mis un putain de collier de fleurs. Et après, la question, c'est ça veut dire quoi être de droite? Et ils répondaient à cette question avec un collier de fleurs. J'étais en mode, ok, c'est Paul and Chill. C'est exactement ce que je voulais créer. C'était vraiment la rencontre du troisième type. Mais non, c'était vraiment très très cool.
Bah bravo.
Donc, merci à toi. Bon, allez, c'est parti. On parle de politique. C'est parti pour les sujets de la semaine.
Ouais, on va pas y échapper.
Alors les sujets de cette semaine en politique, chers amis, ça a commencé fort lundi 2 octobre. Ce lundi, il y a eu une réunion de tous les chefs, presque tous les chefs de parti de la NUPES pour discuter de l'avenir de cette alliance électorale à gauche. Fun fact, cette réunion a eu lieu dans un bar qui s'appelle le Belouchis. Le Belouchis est un bar à Paris, qui est un bar historique de la France insoumise, puisque c'est là qu'en 2017, les insoumis ont fait leur soirée électorale. Et donc, dans la mythologie insoumise, c'est un bar important. Mais c'est aussi le bar dans lequel Backseat avait fait sa première émission en public.
Oh oui.
Avec un invité insoumis qui s'appelle toujours Adrien Quatennens, et qui était venu sur le plateau nous jurer... Qui était venu sur le plateau au Belouchis nous jurer que jamais il y aura d'union de la gauche dans ce pays. Les insoumis ne signeront jamais avec les socialistes, etc. Et un an et demi plus tard, la NUPES était née entre-temps. Et un an et demi plus tard, c'est dans ce même bar que se retrouvent à nouveau, du coup, les parties prenantes de la NUPES pour discuter de l'avenir de cette NUPES. Et l'avenir de cette NUPES, ça va être le point d'interrogation, puisque Marine Tondelier, la chef des écolos, après un suspense, a déclaré qu'elle n'irait pas. Donc, elle n'y est pas allée lundi. Elle était attendue, elle ne s'y est pas présentée. Olivier Faure, le patron des socialistes, y est allé. Il a été applaudi par les militants insoumis au cri de « Olivier avec nous ». Mais en arrivant, il a été assez cash en disant « je cite ces mots, il a déclaré qu'il ne fallait pas poursuivre ce feuilleton délétère en actant le fait que LV et le PCF étaient en dehors de la NUPES. L'arrivée.
Il ne faut pas poursuivre ce feuilleton délétère.
Donc voilà. Ouais. Clairement, il était venu à un enterrement, hein, plus qu'autre chose. Et Manuel Bompard, donc le patron de la France Insoumise, de l'organe de l'organisation de la France Insoumise, avait écrit dès le 29 septembre qu'il regrettait la décision de Fabien Roussel de, je cite, quitter la NUPES. Du coup, ma question, je vous la pose très cash à tous les trois. Est-ce que c'est fini la NUPES, Malek?
Je me pose la question, j'ai pas la réponse, j'aimerais te la donner. Mais pour le coup, on a parlé de l'acte 2 de la NUPES qui devait arriver. Bon, ben là, tout le monde y est contraint. Il faut savoir, est-ce que cette décision de partir en ordre dispersé pour les européennes acte la fin de la NUPES, la fin définitive, ou est-ce qu'on est sur un acte 2 et on se projette sur 2027 et en discutant du pourquoi, du comment et avec qui on n'insulte pas ses partenaires quand on veut faire union avec eux, d'un côté. Et on arrête de vouloir vanter l'acquis France avec des propositions tout aussi ridicules les unes que les autres. Big up à Fabien Roussel. Donc il y a un petit peu à tout le monde. Enfin, tout le monde doit mettre un petit peu d'eau dans son vin. Et moi, je suis surtout, c'est pour ça que c'est très bien d'avoir Boris Vallaud comme invité aujourd'hui. Je suis très curieux de savoir, parce qu'en réalité, ça se passe plus ou moins bien entre les groupes à l'Assemblée dans le travail au quotidien. Il y a des groupes de travail au sein de la NUPES qui fonctionnent bien. Est-ce que les partis ne vont pas tuer l'union à l'Assemblée nationale? C'est la vraie question.
Ça, on va en discuter tout à l'heure, mais sur l'anecdote que tu racontais, effectivement, à Paul Enchil samedi dernier, et vous retrouverez la vidéo, on a fait une table ronde sur la gauche, son union, sa désunion, et on avait Léon Desfontaines, la tête de liste PCF pour les élections européennes, qui défend l'autonomie du PCF pour ces élections-là, et même en général, et Manon Aubry, ancienne tête de liste en 2019, qui défend, elle, l'union, et effectivement, ils ont eu ce dialogue un peu tendu, mais c'était attendu, et elle a parlé de... Manon Aubry faisait l'extrait en parlant de relations d'amour. La NUPES, c'est comme une relation d'amour, il faut que chacun y mette du sien et tout. Et Léon Desfontaines lui a dit, quand on a une relation d'amour, on ne traite pas son amoureux de nazi. Ce à quoi elle a répondu tac au tac, ouais, et on ne jure pas à son amoureux qu'on ne sera plus ensemble dans 3 ans. Et l'échange était, enfin moi j'étais en animation de table ronde, j'étais en mode, ok, un partout là. Clairement, ça joue, l'arbitre n'a pas sifflé, c'est validé des deux côtés. Et c'est effectivement un peu ce que tu as dit.
On a aussi Daniel Simonet, qui l'a dit au micro d'LCP parce qu'elle ne sait pas que l'actualité se passe sur Backseat, mais on ne lui en veut pas, qui a dit qu'elle ne soutenait pas forcément les prises de position de Sophia Chikirou, entre autres, pour attaquer les partenaires.
Léa, pour l'entendre. Léa, est-ce que la NUPES, c'est mort?
Alors, est-ce que la NUPES est morte? Non, alors je pense pas. Je suis d'accord avec ce que disait Malek par rapport à la réalité, en fait, du travail au quotidien. Là, effectivement, la NUPES est en train de préparer au sein de l'Assemblée nationale, on aura l'occasion de voir ça avec M. Vallaud, un contre-budget, quand même, c'est assez important, une contre-proposition, un contre-PLF, en quelque sorte, donc c'est pas rien. Il y a effectivement des initiatives, on a le sentiment, en tout cas, que ça semble tenir dans les institutions, dans une certaine mesure. Sur le plan médiatique et sur le plan national, on a l'impression que ça patine énormément, ça c'est sûr. À raison, hein, puisque effectivement, les signaux ne sont pas forcément très positifs en matière d'union. Après, il faut aussi voir ce que c'était. Je veux dire, c'est à la base, c'était une alliance de circonstances pour des élections législatives, c'est très précis. C'est-à-dire que ces partis ne sont pas arrivés à se mettre d'accord sur un accord de gouvernement, un programme de gouvernement.
Ils sont mis d'accord.
Pour la présidentielle.
Ah oui, autant
pour
moi.
Pour la présidentielle, qui était quand même l'élection clé.
Oui, c'est vrai.
Et quand ils ont vu qu'ils avaient chié dans la colle, bah, du coup, ils se sont dit, autant essayer de rattraper le tir avec législative, mais parce que ça a arrangé tout le monde. Là, ce qu'on constate, c'est que les élections européennes n'intéressent pas forcément... on sait que c'est pas forcément dans l'intérêt de tous les partis de gauche de faire alliance, mécaniquement, pour des résultats. On sait que c'est dans l'intérêt de la France Insoumise, donc on n'est pas surpris que c'est eux que ce soit eux qui sont en train de pousser et de forcer dans ce sens. Par ailleurs, la prochaine échéance électorale après ça, ce sera les municipales. Et même chose. Les partis n'ont pas vraiment d'intérêt, en tout cas les partis qui sont majoritaires dans l'implantation territoriale, et à plus forte raison, le Parti socialiste n'a pas vraiment d'intérêt, en fait, de faire élection.
Dépend des villes, ça dépend des. Ouais, mais je suis d'accord avec toi.
Assez peu, tu vois, globalement. D'ailleurs, ce qui s'est passé pour les sénatoriales, certains candidats sont partis avec l'étiquette. Certains candidats et les filles sont partis avec l'étiquette NUPES, et ça a foutu un sacré sbeul. Parce qu'il disait, en fait, non, vous ne pouvez pas faire ça, il n'y avait pas d'accord, etc.
Ça s'est engueulé.
Donc, un accord de circonstance qui demeure un accord de circonstance en fonction aussi des textes, parce qu'on a vu qu'il n'y avait pas forcément une voie commune non plus pendant la réforme des retraites. On va voir ce qui va se passer sur le PJ à l'immigration, mais je crains que les choses ne soient pas aussi évidentes que certains laisseraient entendre. Donc voilà, c'est finalement. Tu sais, c'est un peu un fuck friend, quoi. Sinon, on va revenir sur l'île.
Il n'y a pas d'amour, mais on baisse quand on a besoin.
Ouais, c'est ça, ouais. Genre, si on doit reprendre la métaphore de la relation amoureuse, moi, je dirais que c'est un peu ça, quoi.
J'adore, c'est exactement ça. C'est vraiment parfait. Ouais, c'est vraiment c'est un plan cul, la NUPES. Antoine, est-ce que la NUPES est morte?
Une jolie comparaison.
Il va enchaîner après.
En posant la question à Boris Vallot, on verra comment il réagit. Finalement, la NUPES, est-ce que c'est pas votre best fuck friend?
Je pense que tout va dépendre des résultats des européennes, finalement. Parce qu'en fait, si tu te retrouves au moment des européennes avec le RN et la Macronie qui est hyper loin devant tous les autres partis de gauche, tu peux avoir finalement une certaine pression à l'Union pour la prochaine séquence électorale majeure qui est la présidentielle et les législatives de 2027. C'est un peu finalement la seule option où je vois la NUPES perdurer et qu'il y a un candidat unique de la gauche au moment de la présidentielle de 2027. Mais sinon, ce qui est certain, c'est que là, on est vraiment dans une situation où tout le monde est en train de se tirer dans les pattes. Ce n'était pas tant le cas que ça il y a encore un an. Mais plus les mois évoluent, plus on a l'impression que c'est quelque chose qui est en train de vraiment être mis à mal.
En même temps, c'est intéressant parce que cette discussion nous fait nous réinterroger sur qu'est-ce que c'était, j'en sais rien, je ne sais pas s'il faut en parler au passé, que cette NUPES. Toi, tu parles d'un accord de circonstances pour les élections législatives. Je ne suis pas loin d'être d'accord avec toi. Parce que moi, j'ai
mais aussi pour l'examen de certains textes. Hein.
Mais justement, c'est qu'en fait, la circonstance. En fait, c'est parfois, il y a des erreurs d'analyse sur ce qu'était que la NUPES, enfin des erreurs d'analyse, en tout cas des analyses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. La NUPES n'a pas été une invention de la France insoumise qui, du jour au lendemain, s'est dit tiens, je vais sauver le PS, le PC et les écolos.
Non, mais c'est l'inverse, c'est le PS, le PC et les écolos.
C'est pas non plus le PS, le PC et les écolos qui se sont dit tiens, finalement, Mélenchon, il est sympa, après lui avoir craché à la gueule pendant toute la présidentielle.
Mais c'était la seule solution de garder leur siège, finalement.
Mais c'est ça. Pour les uns comme pour les autres, c'était une nécessité. Mmh. D'où le caractère circonstanciel, où en fait, ils ont joué le jeu, non pas parce qu'ils se sont mis à en avoir envie, mais parce que c'était un besoin vital pour les uns et politique pour les autres. LFI est passé de 17 à plus de 80 des députés grâce à la NUPES. Et les socialistes, les communistes et les écolos ont eu des groupes à l'Assemblée nationale grâce à la NUPES aussi. Parce qu'en échange de ça, ce n'était pas la dispersion des voix à gauche, etc. Oui. C'était l'effondrement total de la gauche à l'Assemblée nationale.
Non, mais clairement, mais je pense qu'il ne faut quand même pas négliger aussi l'aspect que la désunion est uniquement sur des questions stratégiques. Parce que sur le fond, alors certes, tu as des points de divergence, etc. Mais c'est des points de divergence qui avaient réussi à être réglés en l'espace de 3 jours entre la présidentielle et les législatives.
Oui, mais parce qu'ils ne s'inscrivaient pas forcément dans une réalité, en fait. C'était juste un programme qu'ils n'avaient pas à tenir. Tu vois, s'ils avaient dû réellement gouverner, ces points de divergence auraient éclaté à la gueule. Comme c'est le cas sur le fait qu'ils n'arrivent pas à s'accorder sur certains votes.
Quand même, dans la plupart des cas, tu as une convergence majeure. Mais même au Parlement européen, dans plus de 80% des cas, ils votent de la même manière. Je pense que ce n'est pas forcément là-dessus, mais quand tu regardes le PC qui s'en va, c'est parce qu'ils veulent pouvoir avoir plus de sièges de leur manière. ELV, pourquoi ils vont seuls aux européennes, c'est aussi parce qu'ils se disent que là, ils vont avoir plus de sièges et qu'il faut rééquilibrer les rapports de force à gauche et que s'il y a une union, ça doit être une union qui leur est plus favorable que ce qui était le cas au moment où ça a été fait pour les législatives. Donc finalement, tu as un peu l'impression que c'est quand même plus des considérations de jeu politique, des enjeux stratégiques qui sont à l'origine des divergences. Et si tu te places dans la peau d'un électeur de gauche qui n'est pas forcément le plus politisé, tu vois ça, tu as juste envie de rester chez toi.
Je pense qu'il y a vraiment des grosses divergences sur le plan idéologique aussi.
Mais qui avaient déjà été, qui avaient été actées dans la discussion en réalité un petit peu, tu vois. Là, ils se déchirent purement sur un point de vue stratégique.
Ouais.
Et c'est archi intéressant. Cet été, je me suis fait un petit... petit moment nostalgique gauche plurielle et j'étais en train de réécouter une interview de Lionel Jospin. On occupe son été comme on peut. D'accord.
Mais c'est un très bon programme d'été. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre?
Et c'est Lionel Jospin qui disait, on lui demandait l'année dernière de réagir à la NUPES. Il dit oui, mais on a quand même demandé à des partis de faire en 3 semaines ce que nous on a fait en 2 ou 3 ans. Et en réalité, peut-être qu'on est un peu en train de payer ce rush. Moi, après, je rappelle que je soutenais l'initiative de la primaire populaire. Et donc, cette union-là, ce travail en amont, cette discussion-là, je l'appelais depuis longtemps. Bon, elle n'est pas arrivée et peut-être qu'on est en train de payer le fait d'avoir été trop vite, je ne sais pas.
Est-ce que c'est si grave que ça? Parce que c'est aussi le truc, là, on est en train de parler d'un cadavre, etc. On a l'impression que c'est la fin de la gauche et tout. Est-ce que la NUPES va empêcher la gauche de faire un score cumulé intéressant aux élections européennes? Est-ce que la NUPES va empêcher la gauche d'exister à l'Assemblée nationale? Parce qu'il y a un côté, maintenant que les élections législatives sont passées, les jeux sont faits pour 5 ans. Les élections européennes n'ont pas encore eu lieu, mais on va voir quels vont être les scores qui vont être faits par les uns et par les autres. Et tout va être rebalancé, effectivement, sur les municipales, puis sur la présidentielle. Donc finalement, est-ce que c'est pas trop tôt pour crier à la mort de la NUPES?
C'est juste qu'on est à nouveau en 2019, quoi. Tu te retrouves exactement dans la même situation qu'à l'époque. C'est, tu fais un pas en arrière de 5 ans et tu te dis peut-être qu'il va y avoir une pression au moment de la présidentielle pour qu'il y ait une union à nouveau. Ouais, en fait, le truc, c'est que l'union, elle était là. Donc, si ça avait pu perdurer, ça aurait pas été plus malin.
Oui, c'est dommage parce qu'en fait, au lieu de capitaliser finalement sur un moment assez fort, sur des méthodes de travail aussi collectives, sur une stratégie finalement aussi collective. Je veux dire, là, ils auraient dans l'absolu 4 ans pour préparer la suite. Et effectivement, peut-être y aller en marche un peu dispersée pour les européennes et les municipales, mais en tout cas se concentrer sur là où l'union fait la force, c'est-à-dire les élections législatives et l'élection présidentielle. Donc, on est vraiment en train de perdre du temps. Moi, je pense que c'est grave dans le sens où finalement l'alternative à gauche aurait pu se construire et pourrait encore se construire et que finalement il y a un peu du gâchis pour des raisons essentiellement d'ego, voilà, et de personnes, parce que c'est quand même ça aussi qu'il faut soulever. C'est grave dans le sens où...
Je pense que c'est des égos de personnes.
Oh, un petit peu quand même, quand tu prends Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel,
Okay.
Non, mais c'est peut-être mon analyse personnelle, hein, ça n'engage
que
moi.
Non, je ne sais pas.
Mais oui, j'en suis quasiment intimement convaincue. Oui, oui, tout à fait. À mon avis, ça joue un tout petit peu dans l'équation.
Chouïa.
Mais quand même. Et tout ça pour dire que quand même, l'élection, donc on prépare le terrain, la deuxième force politique du pays actuellement, et elle est en train de s'installer avec une alternative à gauche qui est inexistante, qui est en train de se tirer dans les pattes constamment, qui ne montre pas un visage uni, notamment sur la réforme des retraites, alors qu'il y avait un momentum à saisir, et il y a eu un échec total là-dessus. Enfin, quand même, tu vois.
Sur la réforme des retraites, la gauche était unie. Ça a été sauf conduit.
Non, pas tant que ça. Tu vois, on en discutera avec d'ailleurs.
Sur la méthode.
Sur
la méthode,
la strate à la fin.
C'était pas si fou, quoi. Enfin, désolé, mais il y avait un moment très fort où tout le monde était plus ou moins d'accord, où le peuple était d'accord. Je veux dire, ils avaient
le peuple de gauche, oui.
Le peuple de gauche, mais même, tu vois, un peuple qui est finalement SOSDEM, etc. C'était facile de le ramener. Et là, en l'occurrence, il y a eu un échec, à mon avis. Il y a eu de la structuration, évidemment, sur le mouvement militant, etc. Mais ça ne s'est pas vérifié au sein des partis politiques. Deuxième chose, il ne faut pas négliger non plus les élections européennes, parce que si la gauche arrive en marge dispersée, qu'il y a effectivement un front qui n'arrive pas à se structurer, le deuxième parti français au sein de l'Union européenne, qui représente la France, ce sera le Rassemblement national. C'est dramatique. Je veux dire, c'est quand même un parti eurosceptique dans une année très charnière qui est l'année 2024 sur laquelle l'Union européenne est en train de travailler sur justement la réforme de la question des migrations au sein de l'Union européenne. On se retrouve déjà avec suffisamment, à mon sens, de gouvernements d'extrême droite et de représentants d'extrême droite au sein du Parlement européen. Donc la gauche a une énorme responsabilité à ne pas bouder cette élection et à faire en sorte vraiment de gagner et de conserver une place digne de son, quoi.
Il y a quand même dans ces négociations qui ont lieu en ce moment au sein des partis de la NUPES, un élément intéressant, c'est les jeunes. Les jeunes des partis de la NUPES plaident pour une grande partie d'entre eux, à l'exception des communistes, pour l'union, quitte parfois à se fâcher avec leurs aînés. Du coup, il se dit qu'une des stratégies de la France insoumise ayant échoué à faire union avec les partis, c'est de déposer une liste aux élections européennes d'union des jeunes. qui enverrait le double message aux électeurs de gauche de notre liste, c'est celle de l'Union, et en plus, c'est celle des jeunes. Donc, il y a deux raisons absolument extraordinaires de voter pour cette liste-là. Ça supposerait, par contre, que des jeunes de la NUPES fassent sécession avec leur parti, et j'ai du mal à imaginer les jeunes socialistes et les jeunes écologistes se barrer de leur parti. Mais ceci étant, je me suis mis à imaginer, en préparant cette émission, je me suis dit, attends, il y a un monde dans lequel ils font une liste d'union, une liste unitaire à défaut d'être une liste d'union, que cette liste fait un score pas dégueulasse, voire même qu'elle arrive en tête, et que dans la foulée, les jeunes de la NUPES décident de se séparer, y compris de LFI, pour créer leur propre parti de la NUPES, avec des élections.
Tu vas trop loin.
Marrant, mais faites ça les jeunes,
la seule
ce serait
question,
énorme.
Moi je suis chaud hein, là-dessus, mais la seule question que je te pose, c'est avec quelle thune, quoi?
Mais avec l'énergie du désespoir, tout de suite, t'es chiante. Parce que non, tu fais un financement participatif, c'est pour ça que tu
te prends. Voilà, donc donnez à Popol et après on en reparle.
L'ancien jeune socialiste que je suis peut te dire que les jeunes socialistes sont autonomes. Ils se sont battus pour cette autonomie, c'était en 93 avec Benoît Hamon, mais ce qui les finance, c'est le Parti Socialiste.
Et c'est ça, voilà. Moi aussi, je me souviens du discours, on l'apprenait par cœur au MJS et tout, ouais, c'est faux.
C'est pour ça, avec quelle thune, quoi.
Non, mais c'est une question de pognon, mais c'est aussi une question d'envie politique, c'est une question de réponse aux aspirations du peuple de gauche, etc. Je sais pas si demain, il y a une initiative qui naît issue d'un mouvement de jeunes qui décide de prendre, faut se rendre compte des bolosses qu'il faut avoir, hein. Faut s'engueuler avec Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel, Marine Tondelier et Olivier Faure, en leur disant niquez-vous tous les quatre, on va faire notre propre parti unitaire de notre côté. C'est extrêmement difficile. Je vous rappelle qu'il y a déjà des jeunes qui ont tenté un truc comme ça s'appelait la primaire populaire, ils étaient issus du mouvement climat. Voilà, vous vous souvenez de comment ils ont été reçus par les insoumis. Enfin, tu vois, il y a un moment, c'est pour ça que c'est full de la politique fiction ce que je suis en train de dire, mais qu'il y a un monde dans lequel,
Il y a des indiscrétions dans la presse qui nous parlent de cette liste d'union qui serait menée donc par Manon Aubry. Avec Benoît Hamon dans cette liste-là, moi, ta fiction, moi, de toute façon, je vais toujours croire un petit peu à fiction, on sait jamais. Ouais. Why not, quoi? Je pense que ça a du panache. Mais et puis, franchement, je vais te dire, je sais pas si en face, Olivier Faure, Marine Tondelier, etc., vont aller têche leurs jeunes du parti pour cette initiative-là. Je te le dis. Pas si sûr que ça.
J'avoue. Le parti, vous l'appelez Faire Mieux. Voilà. Non, mais faites ce que vous voulez, vous l'appelez Faire Mieux, et c'est les jeunes de la NUPES qui créent leur propre organisation avec un congrès, avec des tendances, avec
Mais t'es en train de faire un coup d'État, en fait.
Oui, au point où j'en suis, j'en ai rien à foutre. Mais.
Toi, tu vas avoir des problèmes.
J'en ai déjà. Mais bref, on va continuer évidemment à analyser l'avenir de la NUPES sur ce plateau, vous en doutez. On en parlera tout à l'heure avec notre invité Boris Vallaud, qui sera avec nous tout à l'heure. Deuxième sujet d'actualité dont on voulait parler, c'est un anniversaire. Ah. C'est le mien, non pas du tout.
Joyeux anniversaire, Jean.
Ouais, merci beaucoup. Mais non, on voulait parler de l'anniversaire de la Constitution.
Ah, joyeux anniversaire à la Constitution.
Joyeux anniversaire à la Constitution. 65 ans, c'est pas tout jeune. 65 ans, la 5e République, le 4 octobre 1958, était proclamée la
65 ?
58.
65 ans. Ouais. Bah, c'est la retraite, hein, il faut arrêter hein, la 5e.
Allez,
Elle est bonne. Elle a déjà été faite. Elle est très bien. Non, elle est très, très bien. Effectivement, 65 ans, plus toutes ses dents, la 5e République. Donc, cet anniversaire a été fêté. Oh, ça va, je fais ce que je veux. Cet anniversaire a été célébré hier au Conseil constitutionnel. Ou d'autres.
C'est le pire anniv de ta vie, quoi.
Il y avait du beau linge, il y avait Laurent Fabius et il y avait Emmanuel Macron, le président de la République en personne.
C'est bien ce que tu disais.
Est venu prononcer un discours qui était assez attendu. Emmanuel Macron donc a profité de cet anniversaire pour annoncer des souhaits qui étaient les siens pour une évolution des institutions. Il a parlé d'une réforme de l'article 11 sur le référendum sur les lois, une réforme du référendum d'initiative partagée pour le rendre plus accessible, parce qu'aujourd'hui, il ne l'est pas. Un élargissement des possibilités de faire des référendums, il l'avait déjà dit. Une révision des statuts de la Corse et de la Nouvelle-Calédonie pour ouvrir la voie à plus d'autonomie suite donc au processus des accords de Matignon et suite aux discussions qu'il avait eues avec les Corses à l'occasion de la loi remarque, le mot avait été prononcé à l'époque par le Cornu, je m'en souviens très bien. L'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution. La possibilité d'inscrire la protection du climat dans la Constitution. Voilà. C'était ça les propositions qu'il fait. En l'état actuel, c'est une super proposition que nous fait Emmanuel Macron.
Mais ouais,
c'est une proposition de gauche.
Ouais. Et puis en plus,
tu voteras oui au référendum.
Et puis ce qui est cool, c'est qu'en fait, il refait une proposition qu'il fait déjà depuis genre presque des années désormais sur l'IVG dans la Constitution.
Alors, entre-temps, ça a été voté par le Parlement, par une loi constitutionnelle.
Par une proposition de loi constitutionnelle. Il avait promis que le gouvernement allait à nouveau s'en saisir, de sorte à ce que ça passe par un congrès, non pas par le référendum, précisément.
Ah,
parce qu'en fait, quand il s'agit d'une proposition de loi constitutionnelle, la Constitution n'offre qu'une seule possibilité, à savoir uniquement réviser la Constitution à travers le vote du peuple, donc le recours au référendum. Lorsqu'il s'agit d'un projet de loi constitutionnelle, d'ailleurs, aucune proposition de loi constitutionnelle n'a abouti, jusqu'à aujourd'hui.
Bah, jusqu'à celle sur l'IVG. Qui a été adoptée. Elle n'a pas abouti encore, elle a été votée dans les mêmes termes par les deux chambres.
Non, d'une part, et il faudrait qu'elle soit soumise à référendum.
Oui, c'est
par ailleurs, pour vraiment réformer la Constitution. Tandis que le projet de loi constitutionnelle permet soit effectivement de solliciter le peuple, soit de solliciter le Congrès réuni en 3/5 à Versailles, donc le Parlement, Assemblée nationale et Sénat. En fait, les associations féministes avaient pointé du doigt la difficulté que de recourir au référendum dans le cas de l'IVG, concernant notamment les moyens très très importants dont disposent les anti-choix, qui font des campagnes de désinformation, notamment sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc., depuis des décennies. Donc il y avait ce risque aussi de se retrouver dans une campagne de désinformation assez importante. Le 8 mars, le jour de la Journée internationale des droits des femmes, Emmanuel Macron avait promis de reprendre à son compte, donc que l'exécutif se saisisse de cette question, ce qui implique nécessairement un projet de loi. Donc voilà, j'ai le sentiment que, en tout cas, les associations féministes et moi par ailleurs, on se fait un peu mener en bateau, puisque désormais cette proposition sera inscrite dans une réforme vraisemblablement plus globale.
Oui.
Quid aussi de la capacité à faire adopter une telle réforme.
Mais qui va la voter ? En fait, c'est ça la question. C'est-à-dire que là, en l'état actuel des choses, si on fait la liste de ce que je viens de dire, c'est dur pour la gauche de ne pas la voter, cette réforme. Ou alors sur l'argument de ça ne va pas assez loin, donc on ne soutient pas. Mais est-ce que c'est un peu le jeu du tu préfères ?
Oui, mais tu sais,
tu préfères la 6e République ou à défaut, t'as un chemin intermédiaire entre les deux. Est-ce qu'une énième réforme de la Constitution de la 5e République qui remettrait plus de démocratie serait suffisante, Antoine ?
Mais honnêtement, ça va vraiment pas assez loin sur l'aspect démocratique. C'est-à-dire que je regardais les chiffres avant de venir. C'est en termes de préférence pour les différents types de régimes politiques, tu te rends compte que la préférence pour la démocratie représentative, c'est 45% de la population. Préférence pour la démocratie directe, c'est 40%. Et préférence pour des formes plus autoritaires, c'est 15%. Et chez les moins de 35 ans, c'est la démocratie directe qui arrive devant la démocratie représentative. Donc, OK, davantage d'utilisation du référendum d'initiative partagée, pourquoi pas mal, mais ça va quand même pas assez loin en termes de demande démocratique. Et là où c'est dangereux, c'est que tu te rends compte que quand les aspirations démocratiques de la population, elles sont pas prises suffisamment en compte, mais là, tu peux avoir un vrai retour de l'autoritarisme. Et dans les dernières données qu'on a, on voit qu'à la question « la démocratie est le meilleur système possible, elle est irremplaçable », ça a baissé de 5 points et il n'y a plus que 2/3 de la population qui est d'accord avec cette idée-là.
Okay.
Donc à force de pas prendre en compte finalement ces vraies demandes de démocratie et davantage de participation directe sans passer forcément par des élus, ben finalement il y a quand même une frustration qui grandit et qui peut être assez dangereuse.
Malek,
je me suis posé la question, je ne suis pas du tout député et je ne souhaite pas l'être, mais si j'avais été député ou sénateur, quel aurait été mon avis ? Est-ce que je vote l'inscription de l'IVG dans la Constitution alors qu'à côté, parce qu'on nous parle d'élargissement des domaines sur le référendum, mais on ne nous dit pas quoi, mais on a bel et bien compris que ça allait être un petit peu l'immigration, pour ne pas dire totalement l'immigration, pour faire plaisir à la droite et pour que la droite finisse par voter cette réforme constitutionnelle.
C'est ça l'article 11, ouais.
Donc en fait, est-ce que je vote l'inscription de l'IVG avec l'élargissement à la question migratoire. Et on nous parle de l'élargissement aussi, de l'abaissement du seuil pour le référendum d'initiative partagée. Combien ? On ne sait pas. Voilà. Donc, c'est un peu de la branlette, en fait, cette réforme constitutionnelle.
Disons les choses.
Mais ça va être ça. Enfin, c'est le en même temps d'Emmanuel Macron qui va placer à peu près tous les acteurs face à leurs responsabilités.
Pour flinguer tout le monde, à droite comme à gauche.
Pour flinguer, je ne sais pas si c'est pour flinguer, mais le fait que ça gêne aux entournures, effectivement, la gauche qui veut bien l'IVG à la Constitution, mais ça l'emmerde d'élargir la question référendaire vers l'immigration. Et la droite, inversement, qui veut bien faire des référendums sur l'immigration. Par contre, l'IVG dans la Constitution, moins chaud.
Le Sénat l'a quand même voté.
Le Sénat l'a quand même
quand même voté. Très restrictif, hein, qui est, moi, me satisfait pas. Mais
le Sénat a quand même fini par le voter. Donc c'est vrai que la droite a fait un petit bout de chemin. Donc il y a quand même un accord sur le fond, effectivement, sur l'IVG. Pour le coup, sur la gauche, non, effectivement, l'immigration au référendum, c'est non.
Emmanuel Macron nous avait dit qu'il voulait faire autrement, qu'il avait compris en 2022, l'élection, oui. Voilà, il a été élu dans des conditions qui étaient très spécifiques, différentes de 2017, et qu'il voulait faire autrement, qu'il avait compris cette demande de plus de démocratie, de reconnaissance aujourd'hui dans le vote du scrutin. On n'y est pas du tout, on est à côté total, il n'y a pas de réponse à ça.
Est-ce qu'il y a de la place pour la discussion sur ces propositions? Est-ce qu'Emmanuel Macron veut innover aussi dans la méthode pour élaborer cette réforme constitutionnelle? Est-ce qu'on va retomber dans un comité Balladur comme en 2008 avec que des sages autour d'une table et on attend la fumée blanche pour que les sages nous disent regarde, c'est ça qu'il faut faire? Est-ce qu'Emmanuel Macron va se diriger vers un format de type grand débat ou de type saisine du CESE ou de type j'en sais rien, je sais pas, est-ce que c'est pas l'occasion? Il a déjà innové par le passé, est-ce que c'est pas l'occasion de le faire à nouveau? Moi je pense qu'une convention citoyenne avec des citoyens tirés au sort pour travailler sur le sujet de la constitution, c'est une très bonne idée.
Il en a parlé?
Non, ah non, il n'en a pas parlé, il a ouvert la porte.
T'as plein de bonnes idées ce soir.
J'avais loupé.
Mais j'ai que des bonnes idées. Non,
tu veux pas te présenter, vas-y.
Il a juré la vie de sa race qu'il y aurait d'autres conventions citoyennes. Il n'y en a pas eu d'autres.
Qui servira à rien, comme d'habitude. Mais voilà.
Il y a eu la fin de vie. Non, je suis méchant. Il y a eu la fin de vie. Il y a eu des trucs intéressants qui ont été faits. Il n'y a pas eu que le climat. Il y a eu la fin de vie dans la foulée.
Oui.
Donc, voilà, une convention
citoyenne. Non, mais l'exercice.
Mais c'est par ailleurs aussi. Enfin, je veux dire, le travail constituant, si on veut que le travail constituant soit démocratique, et c'est ce pourquoi plaide Dominique Rousseau dans une très bonne tribune dans Le Monde, et je suis complètement d'accord avec lui, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. C'est pas un peu à la ZUP comme ça, surtout dans le paysage politique dans lequel on est, avec l'état du débat public. Donc,
moi, je me pose la question aussi de savoir dans quelle mesure le référendum est un outil qui permette de répondre à davantage d'aspirations démocratiques. C'est la vraie question, parce que finalement, moi, je trouve que c'est un outil qui est un peu éclaté au sol en termes de démocratie, parce que tu demandes aux gens, oui, non, le référendum.
Ah, le référendum, moi, je suis d'accord avec toi, c'est pas un idéal démocratique.
Je trouve pas que ce soit un aboutissement démocratique et participatif, par ailleurs, très, très intéressant, quoi.
Enfin, mais tu pourrais le mêler à des... Enfin, par exemple, tu parles de convention citoyenne, Jean, tu peux mêler la convention citoyenne avec un référendum derrière, par exemple.
Oui, à condition...
C'était la promesse de celle sur le climat, oui, t'as raison.
Effectivement, à condition qu'il y ait...
Tu peux avoir une presse délibérative avant et après un référendum.
Mais on repose dans le problème historique de cette constitution de la Ve République, c'est que ça dépend de la volonté du gouvernant. C'est-à-dire qu'effectivement, tu peux avoir un référendum qui est le fruit d'une réflexion collective, etc., et qui est plutôt un bon référendum d'un point de vue démocrate que je partage avec toi, ou tu peux faire un référendum césariste à la De Gaulle en disant votez oui, ça veut dire me valider ou pas.
Mais la démarche, celle que décrit Antoine, elle est... On en avait parlé il y a un an, juste après la réforme des retraites, où j'avais dit que la seule manière de s'en sortir, c'était justement de dire, convention citoyenne, faites vos travaux. Vos propositions, on les soumet à référendum. Moi, je m'en mêle pas. Je vous promets de soumettre ça à référendum. Et au moins, on avance. Et là, le problème, c'est que on tourne en rond. Je fais un gros big up à Démocratie Ouverte, cette ONG incroyable que j'aime de tout mon cœur, qui appelle à cette convention citoyenne depuis longtemps.
Ouais,
donc, il rencontre le ministère du Renouveau Démocratique. Qui est le ministère du Renouveau Démocratique?
Olivier Véran. Personne ne le sait.
Voilà. C'est terriblement gênant.
Et on n'avance pas. Ah si, il y a Olivier qui me dit qu'on va peut-être innover. Il y a l'application maintenant.
Il y a l'application Agora.
On va faire des référendums. Mais bon, finalement, on revient toujours aux mêmes recettes et aux mêmes pots de confiture in fine.
Vous avez vu la vidéo?
Laquelle?
Le micro-trottoir? Incroyable.
Oui, j'ai vu le micro-trottoir d'Olivier.
La congence.
Mais c'est pas le sujet.
Non. Pourquoi pas? Bien sûr que si, c'est le sujet. T'as un ministre qui débarque avec un micro comme ça en leur demandant coucou, vous aimez bien la démocratie? Le mec, il est ministre du renouveau démocratique.
Il a changé, hein.
Les méthodes sont intéressantes.
Mais
bien sûr, donc faut en parler de ça aussi.
D'accord, ok.
C'est plus que c'était Jean-Yves Lafesson.
Et donc, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un gouvernement plus démocratique, c'est les ministres qui vont plus parler avec les gens, c'est plus d'intervention, c'est les
résultats? Alors, moi, je trouve que, pour le coup, l'idée de l'application, why not?
Le gouvernement a le droit de parler aux gens, j'ai pas de problème.
Ouais, voilà, pourquoi pas? Ça va coûter beaucoup.
Ce que ça va coûter.
Voilà. Pour quel résultat, ça, je sais pas. Encore une fois, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que ce gouvernement s'intéresse aux objectifs réels qu'il veut mettre en place.
Ça, c'est la bonne question. Je suis d'accord.
Non, mais tu vois, et qu'ils définissent une stratégie. Et puis, parfois, il y a aussi des études d'impact. Parce que c'est super utile. Il y a des gens qui font ça très bien.
Mais c'est ça le problème.
Et j'ai l'impression qu'ils s'en tapent un peu.
Antoine ?
C'est ça le problème, c'est qu'au fond, le gouvernement ne veut pas changer la règle du jeu. Mais, si tu prends quand même toute l'histoire de la Macronie, il y a eu les gilets jaunes, il y a eu le Covid, il y a eu la réforme des retraites. Et en fait, tu te rends compte que maintenant, à chaque crise sectorielle que tu as, T'as la question démocratique qui arrive derrière. Alors avec le RIC au moment des Gilets jaunes, la crise Covid, c'était pas tant les mesures prises, mais la légitimité de ceux qui les prenaient avec le Conseil scientifique. Et la réforme des retraites, on en a été à défendre le Conseil constitutionnel. Mmh. C'est de dire là où on en était. Bon, bref, tout ça pour dire que cette question démocratique, elle est vraiment, enfin, c'est l'éléphant au milieu de la pièce. Et pourtant, bon, un petit peu référendum d'initiative partagée, etc. Ils veulent pas aller dans cette direction-là.
Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Et c'est le drame de cette Ve République, c'est que tu ne peux pas contraindre un gouvernement, et encore moins un président de la République, à avoir de la bonne volonté dans une direction dans laquelle il ne veut pas aller. Et effectivement, s'ils ne veulent pas toucher à l'objet, on pourra faire toutes les émissions du monde les plus passionnantes. Fondamentalement, ça changera pas les équilibres, on restera dans un système présidentialisé, etc.
Pourtant, Dieu sait que les émissions sont passionnantes.
Hein. Et Dieu sait qu'elles sont bien. Abonnez-vous, faites des dons, c'est incroyable. Dernier sujet dont je voulais parler avec vous, c'est la panique sur les punaises de lit. Alors, on en a, quand on préparait cette émission, on s'est dit, OK, comment est-ce qu'on traite ça politiquement? Est-ce qu'on est face à un sujet qui est une pure hystérie collective autour d'un sujet dont, en fait, bah, les observations montrent qu'il y a une augmentation. On en parlait pendant tout le before de cette émission avec deux youtubeuses extraordinaires. On parlait du fait qu'il n'y a pas de phénomène massif, qu'il y a une augmentation, mais qui n'est pas plus importante que l'année dernière. On parle du phénomène des JO. On a vu CNews qui a fait un parallèle avec l'immigration, alors que toutes les études montrent qu'en fait, non, il n'y a pas de...
Et
Olivier Marleix, le ministre...
Le chef de DLR à l'Assemblée nationale, qui
lui aussi a fait le lien. Que les études montrent bien qu'il n'y a absolument rien de spécifique à la fortune des populations, à leur niveau de vie, à leur niveau d'hygiène et de propreté, pour reprendre les propos de Léna tout à l'heure. Donc, le phénomène des punaises de lit, qu'est-ce que ce phénomène de cette rentrée dit de notre paysage politique et de notre débat public ? Malek.
C'est très intéressant. J'en parlais avec les équipes quand on préparait l'émission. Moi, les punaises de lit, ça a été un... Ça fait un an, en fait, que moi, j'en parle, de mon côté. C'était une petite psychose.
Ouais.
J'ai vu des vidéos, j'étais persuadé d'en avoir partout. Trois sociétés sont venues à la maison. Ça m'a coûté la peau du derche. Et en fait, j'en avais pas, mais je suis tombé dans la psychose. Mais à côté de la psychose, il y a aussi un vrai sujet de santé publique qui est traité par des élus. On peut citer Mathilde Panot, mais pas que. Il faut aussi distribuer des bons points quand il faut le faire. Depuis des années, en face, il y a zéro réponse du gouvernement, mais aussi zéro réponse en réalité des autres groupes politiques. Et là, par opportunisme, tout le monde a décidé de placer la question des punaises de lit comme une priorité nationale. Sylvain Maillard, le président du groupe Renaissance, nous en parle, mais comme si vraiment Renaissance bossait dessus, mais depuis des années. Non, tout ce que vous avez fait, vous nous avez parlé d'un groupe interministériel qui allait bosser dessus.
Il se réunit demain.
Qui allait vous faire un petit numéro vert encore et un site internet. Et voilà. Et puis on a fait tout ce qu'on avait à faire. Mathilde Panot parlait en 2017 de, je crois, 200 000 ou 300 000 interventions par an. On est à plus d'un million,
oui.
Donc c'est qu'il y a un vrai sujet et que tout le monde a voulu occulter. Et là, par opportunisme, tout le monde veut y retomber.
Léa, est-ce que c'est un sujet que le gouvernement a mal anticipé ?
Alors oui, déjà je tiens à souligner qu'il y a à mon avis une réponse politique qui est à retardement de toute évidence, parce que la réalité du calvaire que peut représenter les punaises de lit est une réalité dans certains endroits que l'on oublie dans notre République. Et je parle plus particulièrement du milieu carcéral, parce que depuis 2013, il y a des rapports quasi annuels qui alertent sur la prolifération des punaises, qui est facilité par la proximité dans les cellules, et notamment la proximité des matelas.
Ouais.
En fait, les punaises de lit, elles portent bien leur nom puisqu'elles se logent effectivement dans des matelas. Donc depuis 2013, on a quand même la contrôleuse des lieux de rétention, etc. Dans les centres de rétention administrative aussi, des problèmes tels que ceux-là. C'est un problème aussi qui territorialement a émergé à Marseille, beaucoup. La ville la plus touchée par les punaises de lit, c'est Marseille, et depuis quand même des années. Et en fait, il faut attendre en quelque sorte que ça débarque dans le métro parisien pour que la classe politique commence à s'exciter. Et il faut qu'il y ait des articles des médias étrangers pour dire « Ouyouyouy, punaise de lit en France, allez pas aux JO ».
Avec l'enjeu des JO, oui, c'est vrai. L'enjeu des JO.
Moi, je trouve ça dramatique parce qu'en réalité, je vous conseille d'ailleurs un excellent podcast d'Arte Radio. Je ne veux pas faire de la concurrence au podcast Malek, mais l'avantage des podcasts, c'est que vous pouvez en écouter plein. Ou abonnez-vous à Popol aussi, d'ailleurs, qui s'appelle « Profil ». Et qui interview des personnes avec des profils professionnels très spécifiques. Et en l'occurrence, une psychologue qui intervient dans le milieu carcéral, qui parle de l'impact sur la santé mentale des détenus, de la présence de punaises de lit, en fait. Et ça, c'est totalement occulté. Donc depuis maintenant plus d'une décennie, on connaît le problème. Personne n'intervient. Donc on attend, finalement, que ce soit sous notre nez et que ça dérange un peu la classe dominante, en quelque sorte, pour intervenir.
Avec
donc, il y a une énorme hypocrisie encore en la matière. Et moi, il y a autre chose. On parlait tout à l'heure de la responsabilité de qui doit payer pour des interventions. Les interventions, ça coûte un bras. Je veux dire,
ça coûte très très cher.
Au-delà du fait que ça coûte très cher, mais en plus, quand tes meubles sont infestés, il faut les jeter. Donc, ça veut dire remplacer de la literie. Les gens n'ont pas les moyens aussi. Enfin, voilà. Il y a aussi savoir comment on va faire pour indemniser ces personnes qui sont touchées de plus en plus par ce phénomène.
Et on aura peut-être la réponse d'un accompagnement du gouvernement. Demain aura lieu ce comité interministériel qui doit saisir de la question. Dernier mot, Antoine, si tu le souhaites, sur ce sujet.
Je trouvais que Vincent avait dit des choses très intéressantes tout à l'heure, notamment sur son passage sur Pascal Pro. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Le phénomène des réseaux sociaux, ça montre bien comment médiatiquement un problème public peut être construit, parce qu'il y a une augmentation constante des punaises de lit depuis des années. C'est maintenant qu'on prend en compte ce problème-là alors qu'il existait auparavant, parce que ça a été publié sur Twitter et que les journalistes sont sur Twitter. Du coup, ils l'ont relayé et du coup, c'est devenu un problème. Et si c'est un problème pour les journalistes, ça devient un problème pour les représentants politiques. Ça, c'est un premier point. Et le second point, c'est vraiment de mettre en avant les aspects d'inégalité sociale qu'il y a derrière ce problème de punaises de lit, parce que quand ça coûte 800 euros pour se faire enlever les punaises de lit dans son appartement, tout le monde n'est pas en mesure de le faire. Donc encore une fois, tu vois bien comment les problèmes de santé publique, tout le monde n'est pas traité de la même enseigne par rapport à ça.
En principe, c'est au propriétaire de payer la désinfection. Chers amis, je vous rappelle que cette émission Backseat est financée grâce à vos dons. N'hésitez pas à participer, vous aussi, à rendre possible la réalisation de cette émission chaque semaine par une équipe de passionnés. J'en profite pour remercier toutes les équipes qui fabriquent cette émission chaque semaine, les équipes techniques, les équipes éditoriales, mes chroniqueurs et chroniqueuses. Vous pouvez nous retrouver sur KissKissBankBank. Vous avez la possibilité de faire un don mensuel qui nous permet de continuer cette émission. On a des paliers dans le financement participatif à réussir. On est déjà à 18 000 euros par mois. L'objectif pour qu'on réussisse à pérenniser cette émission, c'est 30 000 euros par mois. Et le prochain palier à 19 000 euros, on aura une émission en live de cuisine avec Léa ici présente et Benoît Hamon qui vont cuisiner un kebab. Non, ce n'est pas une blague. Oui, ça va vraiment arriver si vous donnez à Backseat et que vous participez à son financement. Merci du fond du cœur, chers amis. Ça vous dit de jouer à un jeu à la con ?
Ouais.
Allez, c'est parti pour le jeu à la con. Alors, le jeu à la con cette semaine, comme les semaines précédentes, on va continuer avec le jeu du chapeau, le jeu du post-it, appelez-le comme vous voulez. On va devoir deviner chacun, tous les quatre, un personnage qui nous a été attribué. On ne le connaît pas, on ne connaît que les personnages attribués aux trois autres. Et on doit discuter pour essayer de d'interroger les autres sur quel personnage est-ce que j'ai.
Banane déjà.
Voilà, je vais vous donner une petite feuille à chacun sur laquelle vous avez les noms des trois autres, mais pas le vôtre. Malek, ça c'est pour toi. Antoine, ça là c'est la tienne. Et Léa, celle-là c'est la tienne. Vous avez un petit peu le temps de la regarder. Vous, chez vous, ça s'affiche à l'image. Vous le voyez aussi sur l'écran. Je vous demande d'ailleurs les chroniqueurs de ne pas
regarder
l'écran, mais en principe, vous ne pouvez pas le voir.
Tu ne peux pas savoir comme j'ai kiffé ce jeu la première fois.
Du coup, on fait quoi avec les enveloppes là ? Avec la fiche ?
Tu la montres pas, tu la regardes.
Alors vous me faites très peur parce que vous regardez dans ma direction et ça me fait flipper.
Donc tu regardes la feuille parce que tu as les trois personnages. Hop. Ok, on n'est pas bien. Ok, d'accord. Bon, j'ai l'impression qu'il y a un thème cette semaine. Est-ce que je suis un personnage réel ? D'accord. Ah oui, d'accord. Ah, on en a. Vache. Est-ce que je suis un personnage de fiction ?
Oui.
D'accord, merci.
T'es un personnage de fiction.
Est-ce que je suis un personnage de film d'animation ?
Non.
Est-ce que je suis un personnage de... Alors, du coup, je pose plus de questions, vu qu'il y a eu un nom.
Que je suis un personnage politique ?
T'aurais pu, mais non. Non. Rigole.
Encore que...
D'un certain point de vue, mais non. Non, clairement non.
On en rediscutera.
Est-ce que je suis un homme ?
Oui.
Non.
Bah, masculin.
Bah, non.
Là, je regarde.
C'est pas un homme.
T'aurais pu être journaliste sur CNews, mais non, finalement, non.
Non. Voilà. Non, c'est pas un homme. Non,
non t'es pas un homme. Je regarde, c'est une vanne, joke.
Est-ce que je suis un être humain ?
Non.
Ok, d'accord.
Suis-je un être
humain ? Ah, pardon, si, toi, oui, pardon. Ah, okay. Ça y est, je confonds les.
Ok, humain, et moi, aussi. Suis-je un être humain ?
Non.
Non.
Non, mais vraiment pas.
Non. Pas exactement.
C'est un personnage de fiction.
Mais oui,
Non mais vas-y, c'est le bordel de toute façon.
Non, non, mais attends.
Exprès, hein.
Non, et les règles.
Non, il n'y a pas de règles. Alors commence pas à essayer de faire des scores.
La règle, c'est le bordel.
Non, là, je me fais carotte. Depuis tout à l'heure, j'ai pas pu poser une question. Et donc on remet les bases.
Pose tes questions.
Tu poses une question, ta réponse c'est non, ça passe au prochain. Ok. Voilà.
D'où dans mes doutes, d'applaudissements, ça a toujours été le bordel. Vas-y.
Suis-je un personnage de fiction? Donc là, j'ai le droit de continuer, tu vois.
Oui, vraiment.
Suis-je un être humain?
Non.
Ben non, non.
Ah.
Non,
non.
Est-ce que mon personnage est un animal?
Non.
Non.
Non. Okay.
Est-ce que le mien est un animal? Non. Ah, d'accord.
Non, non, non.
Vous
non.
m'aidez tellement pas.
Non.
Non. Non. Est-ce que je suis un personnage de fiction?
Oui.
Oui.
Quelqu'un dans le public a un stylo à me balancer? Si quelqu'un a ça dans sa poche. Non, mais toi, tu veux pas prendre des notes?
Non.
Tu reviens de cours.
Dans la tête. Hein.
Moi, j'ai oublié qui était qui, donc.
Oui, pareil. Alors, personnage de fiction. Est-ce que je suis un personnage récent?
Non.
Non. Okay. Non. T'as des années dans le compteur, ouais.
Non, pas récent.
Non, t'as des heures de vol, ouais.
Des heures de vol, ouais.
Est-ce que je suis un personnage de fiction? On a dit oui, ok.
On a dit à moitié, on n'a pas dit oui.
À moitié.
Bah si, quand même.
Si.
Il est okay, fictif,
dans un film?
Non.
Dans un dessin? Ok.
Non.
Pas du tout.
Ah ouais.
Allez, j'ai oublié les règles, désolé.
Suis-je un animal?
Non.
Non.
Putain.
Okay,
je sais pas ce que je suis. Hein.
Est-ce que je symbolise quelque chose?
Quoi?
Est-ce que je suis une mascotte?
Non.
Non.
Non, pas comme ça.
Antoine, et toi? Je dis que potentiellement, ce jeu peut être super long, en fait.
Il peut être très, très long.
Il y a un risque, là, on va pas se mentir. Hein. On est sur...
Ça va être à 2h du mat. Est-ce que je suis un personnage de dessin animé?
Oui. Enfin, non.
Ouais.
Bah non, du coup. Pas un dessin animé.
Si, il y a eu.
Il y a eu
adaptation. On est en retard, donc en fait, à mon avis, il va falloir donner des indices, là. Donc, on est sur le moment où il faut donner des indices.
Alors Malek, ton indice, c'est que tu ne trouveras pas.
Merci Antoine.
T'es une mascotte, Malek.
Malek, t'es une mascotte.
Je suis une mascotte.
Ouais. Pas n'importe laquelle.
Léa, t'es une mascotte aussi.
Ah.
Tu es une... Ouais.
Je suis une mascotte d'une marque.
Okay. Bah un peu quand même.
Ah ouais.
Bah c'est une marque,
oui,
non?
Oui, d'un certain point de vue, mais...
J'aurais dit que
c'est une marque ponctuelle.
C'est une marque comment?
Ponctuelle.
Ponctuelle, ok. D'une compétition sportive?
Tout à fait. Oui.
Footix? Ouais.
Non.
Ah merde. Ah, j'ai tenté.
Non,
pas loin.
Tu vas être déçu.
moins mémorable, encore que. Antoine, tu es un personnage de BD.
Français, non?
Et oui, t'aimes pas trop les voitures. Si on se rapproche d'une vanne.
Ouais.
Voilà, c'est compliqué cette affaire.
Et moi, un indice?
Toi, mec, on t'a vu aussi noche, on peut dire ça?
Ouais.
C'est bien, comme on n'en donne pas trop.
Ouais, ça l'aide vachement, ouais.
Est-ce que je suis Astérix?
Non. Alors, pas exactement.
Dans une saga. Voilà.
Moi, je suis une mascotte sportive.
Non,
t'es pas une mascotte sportive, t'es une mascotte commerciale.
Ouais.
Et tu... Non.
Bah si. Il faut des indices, j'en ai pas eu.
T'as plein de copains.
Le pire indice.
Tu es M&M's?
Oui.
Ah.
D'où ça t'est sorti d'un coup comme ça?
C'est trop bien. Bah je sais pas, je les imaginais tous ensemble.
Mais t'es pas n'importe quel M&M's, c'était le M&M's violet.
Ah ouais, trop stylé avec les grands cils là.
La meuf, ouais.
Ah yes,
ouais.
Salé, je suis le M&M's woke.
Oui, exactement, oui c'est ça. C'est le M&M's woke qui a été dénoncé sur Fox News.
Parce que la dernière fois j'étais quand même David Douillet, donc.
C'est vrai.
Voilà. Moi j'étais Arlette Laguiller, donc je.
Toi t'étais Arlette Laguiller, ouais, c'est vrai.
Regardez.
Cinéma, saga, je suis Groot.
Non.
Mascotte,
mec.
Est-ce que je suis une est-ce que je suis dans la saga DC?
Non.
Est-ce que je suis dans une saga Marvel?
Non.
Ok, très bien.
Oh, mais bon, ça, comment il galère.
Ouais. C'est vrai, je fais une story là.
Je suis une mascotte.
Tu es une mascotte
ponctuelle
d'événements sportifs.
C'est pour une fois que je gagne avant.
Purée, mais merde.
Frérot.
Des JO?
Oui.
Mais j'ai pas le nom de la mascotte des JO.
Décris là.
C'est un truc de... C'est comme une flamme, non? Pas du tout, absolument pas.
Non, non.
Purée, j'ai déjà oublié cette mascotte.
Non, non, ah bah pourtant.
Ah, je sais qu'elle est bien moche, je sais que c'est bien de la merde.
Ah, là, c'est un indice.
C'est, voilà.
Ah bah merde, bah.
Certaines femmes diraient que ça n'est pas étonnant que les hommes la trouvent pas.
Ouais.
Ah!
J'aurais pas dit que c'était de la merde, perso, mais bon. Ça peut se révéler fort utile.
Non,
dans
mais arrête,
situations.
C'est pas. Non, mais c'était pas le nom de la mascotte, absolument pas.
Non, c'est dans.
Mais je vois bien. Ok. C'était, donc c'est vrai, ce n'était pas du tout une merde.
Bon bah décris-la du coup. De... À défaut d'avoir son nom.
En vrai, moi j'avais pas le nom.
C'est. Non, attends. Si, attends. Si j'ai le nom. Attends. Attends, si je l'ai.
Tony
Estanguet s'en est même expliqué sur France
Allez,
Info.
Attends, je filme parce que là vraiment.
Question de Salia Braclia, je m'en souviens.
Beaucoup trop précis.
J'ai le nom. Ah, ça rase, je l'ai plus.
Bah, sinon, la référence. T'as la référence.
La ref, moi. La ref. Ça symbolise quoi?
Une petite vulve très mignonne.
Bon, allez, on peut l'applaudir, oui, c'est ça.
Mais est-ce qu'on a le nom?
Oui, la frige.
Frige, ah, mais c'était bien de la merde, frige. J'avais raison.
Oui, c'est bien de la merde. Non, mais c'est de la merde, du début jusqu'à la fin, cette mascotte. Donc, ouais, exactement. Antoine, il nous reste plus que toi et moi. Toi, t'es un personnage communiste. Je te le dis tout de suite.
Ah bon?
Ouais.
Ah ouais, bah oui, j'avais pas pigé. En même temps.
Un personnage de BD communiste qui aime pas les voitures, mais tu veux que je fasse avec ça, moi?
Et non, Fabien Roussel n'est toujours pas communiste. Pardon. Toi, t'es sénateur.
Et toujours pas un camarade.
Ouais, t'es sénateur, Jean.
Ah, Jar Jar Binks.
Ah, mais tu te rapproches. T'es dans le bon thème.
Je suis Padmé Amidala.
Non, mais.
Je vais vous faire tout le sénat de la galaxie.
Méchant.
Hein. Je suis Palpatine. Oui. Voilà. Merci pour les. Ouais, merci. Merci. Toi, du coup.
Ouais, on peut juste te dire que j'ai pas trouvé, non?
Non. Tu vas trouver, mon vieux. Tu es un animal. Tu es la mascotte d'un journal communiste.
En plus.
Qui a créé une BD.
Ah, Pif.
Tu es Pif le chien. Mmh. Bravo, Antoine. Méga galère les personnages de fiction, je le dis dans ce jeu. voilà, on va rester sur les personnalités politiques.
Bah ouais, je pense, ouais. Parce que là, ça devient compliqué.
Parce que les
persos de fiction,
si on n'a pas des turbos indices, franchement, c'est vraiment impossible. Merci beaucoup, les amis.
Merci à toi.
On va marquer une pause et après la pause, on se retrouve avec notre invité politique de la semaine. Il s'agira du président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, Boris Vallaud. À tout à l'heure.